Bonjour à toutes et tous.
Une campagne électorale qui démarre, des craintes d'une montée puissante des extrêmes en Europe et chez nous en Belgique. En quoi les élections qui arrivent sont-elles à ce point cruciales? On en parle avec notre invité ce matin.
Oui, c'est Jean Fagnel, le directeur du CRISP. Alors on va essayer de décortiquer ces enjeux. Aussi la question du financement, parce qu'on va commencer à comptabiliser les dépenses électorales. Et on voit que juste avant cette comptabilisation, certains sont en mode déjà clairement en campagne avec des dépenses importantes. Et puis on va revenir sur cette année 2024 avec une succession d'élections dans le monde, aux États-Unis, mais aussi chez nous en Europe, avec cette crainte d'une poussée des extrêmes. Et hier, le Premier ministre Alexander De Croo s'exprimait devant le Parlement européen.
2024 will be a crucial year.
Bonjour Jean Fagnel.
Bonjour.
2024 sera l'année où nos démocraties seront mises à l'épreuve. Ce sont donc les mots du Premier ministre hier. En quoi est-on, Jean Fagnel, face à un tournant dans cette année 2024 ?
D'abord, c'est une année d'élections un peu partout. Il y a évidemment les élections européennes, ce qui concerne déjà plusieurs centaines de millions de citoyens. Il y aura des élections en Inde, 1,4 milliard d'habitants. Il y en aura aux États-Unis, en Russie, au Pakistan, en Indonésie. Donc si vous regardez le top 10 des pays les plus peuplés au monde, vous voyez que la plupart, en tout cas ceux qui sont des démocraties, évidemment on ne parle pas de la Chine, sont confrontés à des élections cette année. C'est une première chose. Et puis deuxième chose, ces élections, ben, on voit qu'elles se passent dans un contexte qui n'est absolument pas anodin. On a vu dans certains pays depuis 10 ans, dans certains pays depuis 20 ou 30 ans, les grands schémas qui finalement rythmaient la vie électorale, les grandes tendances classiques, libéraux, socialistes, socio-chrétiens, écologistes plus récemment, qui petit à petit ont commencé parfois à mordre la poussière, parfois à complètement disparaître. Si vous regardez ce que l'élection d'Emmanuel Macron a bouleversé en France, par exemple, vous en avez une idée. Et puis, bah, c'est clair aussi qu'il y a une montée de l'extrême droite. Ce n'est pas une première, bon, sans même se référer à la période d'avant-guerre. On a vu des montées de l'extrême droite dans les années 80, 90. Mais ce qui est différent maintenant, c'est que l'extrême droite accède au pouvoir. Si on regarde simplement dans l'Union européenne, elle est au pouvoir en Italie, en Finlande, en Slovaquie. Elle soutient le gouvernement de l'extérieur en Suède. Et peut-être que demain, aux Pays-Bas, l'extrême droite qui est arrivée en tête lors des dernières élections va aussi jouer un rôle de premier plan. Donc on est vraiment face à une situation qui est différente de celle qu'on a pu voir lors des élections précédentes, il y a 5 ou il y a 10 ans. Donc parler d'année cruciale, je pense, n'est pas galvaudé.
Et c'est pourtant un mot, Jean Fagnel, qu'on utilise quasiment en Belgique lors de chaque élection. Parfois c'est crucial pour le pays, parfois c'est crucial pour les francophones. Ici c'est crucial quasiment pour la démocratie. Est-ce qu'on ne cherche pas à se faire peur? Est-ce qu'on ne crie pas au loup? Comment à un moment donné mobiliser l'électeur sans lui faire peur justement?
Oui, je comprends qu'on ait cette impression. C'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on parle d'année particulièrement importante, etc. En Belgique, on a pris l'habitude maintenant depuis 2014 de coupler les scrutins. Donc d'avoir le même jour les élections fédérales, la Chambre, les élections régionales et communautaires et les élections européennes. Avec ce que cela a pour effet de complication, de complexification. Et puis finalement, ça induit quand même un certain flou pour les électeurs. On ne sait plus très bien qui fait quoi. J'ai presque envie de dire qu'on ne cherche même plus très bien à savoir quel parlement ou quel gouvernement s'occupe de quelle matière. De toute façon, on les élit quand même tous le même jour. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait optimal. En 2024, en Belgique, on va même avoir un calendrier électoral tel qu'on ne l'a jamais vu, puisqu'on va commencer au mois de mai avec les élections sociales, qui concernent quand même largement plus d'un million de travailleurs et de travailleuses dans les entreprises. Et puis, le 13 juin, les élections législatives que je viens d'évoquer. Et puis, le 13 octobre, toutes les élections locales, donc les communales, les provinciales, et même encore à Anvers, celles dans les districts, les quartiers d'Anvers. Donc c'est vraiment une année qui est massive en termes d'élections pour la Belgique. Ensuite, il faut bien voir que quand même, on est dans une situation où on a, sur le plan fédéral, un gouvernement qui a mis longtemps à se former, qui s'est formé dans un contexte de crise politique, puisqu'il faut se souvenir que le gouvernement dirigé par Charles Michel avait été mis au tapis par le départ de la NVA déjà dès le 9 décembre 2018, alors que les élections ne se sont tenues que le 26 mai 2019. Donc on a déjà eu 5 mois d'affaires courantes avant même d'être aux élections. et les affaires courantes ont encore duré longtemps. Et ça n'est que dans le contexte de la pandémie de Covid en 2020 que finalement le 1er octobre, Alexandre De Croo a pu mettre son gouvernement sur pied. Donc il y avait déjà 27% de la législature qui était écoulée avant même qu'on ait un gouvernement de plein
Jean
exercice.
Fagnel, sur cette question de la lisibilité du scrutin et la lisibilité aussi des enjeux, on s'empare cette semaine à la RTBF de la question de la santé avec ce slogan qu'on a entendu durant toute la crise du Covid. En Belgique, on a même 9 ministres de la santé. En quoi c'est peut-être l'exemple justement de cette complexité qui n'est plus compris par les Belges. On a du mal à comprendre pourquoi encore en ce moment on a 9 ministres de la Santé. Est-ce que c'est un délire belge, si je peux me permettre?
Au risque de vous décevoir, moi je n'en compte pas 9, j'en compte 10. Parce que quand on fait le détail, moi j'arrive plutôt à 10. Alors il y a différentes raisons qui expliquent ça. Il y a évidemment les réformes institutionnelles. On a complexifié les choses. Il y a aussi des distributions de compétences à l'intérieur d'un même gouvernement. Du côté du gouvernement de la communauté française, par exemple, il y a 5 ministres, dont 3 ont des compétences
c'est
en matière de santé.
C'est un peu la faute aux francophones, quoi.
Mais ça a du sens, d'une certaine manière, puisqu'on a donné la santé à la ministre de la petite enfance pour ce qui concerne la santé de la petite enfance. On a donné les hôpitaux universitaires à la ministre de la recherche scientifique. On voit bien les rapports. Et Caroline Désir, qui est cette 10e ministre que j'ajoute à la liste, est compétente pour les centres PMS, psycho-médico-sociaux. On est quand même bien dans le domaine de la santé, me semble-t-il, et c'est logique avec ses compétences en matière d'éducation. Donc au-delà du slogan « on a 9 ministres » ou même 10, je pense qu'il faut bien voir quelle peut être l'utilité, quel peut être le rapport. Il faut bien se dire que la santé, c'est quelque chose d'extrêmement large. Mais, cela dit, c'est vrai qu'on a complexifié le domaine de la santé. Si vous discutez avec des spécialistes de la santé, de l'organisation institutionnelle de la santé à Bruxelles, au bout de 45 minutes, vous n'êtes pas encore sûr non seulement d'avoir compris, bien compris, mais surtout qu'ils sachent eux-mêmes qui fait exactement quoi, tellement il y a d'intervenants. Donc là, je pense que les francophones ne devraient pas nécessairement craindre une réforme institutionnelle parce que des simplifications seraient extrêmement importantes et elles permettraient aux citoyens d'y voir plus clair, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit pour les demandeurs d'emploi, ou bien que ce soit pour l'accueil des personnes handicapées, pour ne prendre que quelques exemples particulièrement criants à Bruxelles.
Alors, on parle de la dynamique politique, de ce qu'on voit à l'écran, de ce qu'on entend dans les propos. Il y a aussi tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les algorithmes. Au CRISP, vous scrutez cette dynamique et la question du financement aussi. On sait que de nombreux partis, notamment le Vlaams Belang, la NVA en Flandre, mais aussi le PTB chez nous, investissent massivement dans ces réseaux sociaux. C'est une campagne qui se passe sous les radars, vous avez l'impression. Il y a des choses qu'on ne voit pas totalement parce que ça se passe dans l'algorithme de chacun sur les réseaux sociaux.
En fait, les réseaux sociaux, je dirais que par rapport à la démocratie, ça peut être une chance. Parce que c'est vraiment un forum de discussion. Ça a été conçu comme ça et ça pourrait l'être. Le problème, c'est qu'on sait que les algorithmes déforment les choses. On sait aussi qu'il y a des acteurs, des puissances publiques ou parapubliques étrangères, etc., qui essayent d'utiliser les réseaux sociaux pour influencer les élections. Ça a été largement démontré. Donc, les réseaux sociaux pourraient être une chance, mais en fait, deviennent vraiment un biais très très fort et peut-être même toxique pour la démocratie. Et si on regarde le financement des partis politiques, en Belgique, il est particulièrement élevé, ce qui permet, avec aussi l'absence de comptabilisation des dépenses faites sur les réseaux sociaux par les partis politiques en dehors des 4 mois qui précèdent une élection, eh bien ça permet à ces partis d'être les champions même européens. Quand le Vlaams Belang ou la NVA investissent chacun 1 600 000 euros sur Instagram et Facebook comme ils l'ont fait en 2023, on est là face à des flots d'argent qui sont dépensés et donc des messages qui peuvent aussi passer. À eux deux, ces partis dépensent plus de la moitié de ce que tous les partis politiques belges ont pu dépenser sur Facebook au cours de l'année 2023.
Voilà, des flots de dépenses qui seront régulés 4 mois avant l'échéance électorale, comme vous l'avez expliqué. Merci beaucoup Jean Fagnel, directeur du CRISP. L'invité de la matinale est disponible en podcast.